partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans notre studio aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-René Klein, professeur à l'UCL, c'est l'Université catholique de Louvain, aujourd'hui implantée à Louvain-la-Neuve en Belgique, où il enseigne la linguistique romane et la linguistique française, à la fois la lexicologie et l'histoire de la langue. Bonjour monsieur Klein.
Bonjour madame.
Vous êtes français et belge, les deux
oui,
à la fois.
Oui, familièrement, enfin du point de vue de la famille, familialement et je dirais génétiquement, j'ai les deux qualités.
Les deux qualités. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir dans le studio de Canal Académie. Et votre venue nous donne le prétexte de dire quelques mots sur cette université, parce que c'est tout de même une université ancienne qui a une histoire. Alors l'université de Louvain, j'ai vu qu'elle avait été fondée en 1425. C'est un peu après la Sorbonne, mais tout de même, ça devient assez ancien. Elle a toujours fait rayonner la culture en Europe. Elle a eu d'ailleurs une histoire un peu mouvementée sur laquelle on va peut-être passer. Mais enfin, il y a eu donc l'université de Louvain en 1797 et l'université catholique de Louvain en 1834. Et elle porte toujours ce nom.
Exactement. Donc, elle porte le nom d'Université catholique de Louvain. Mais il ne faudrait pas en tirer la conclusion, peut-être hâtive, que c'est une université, comme certains pourraient le croire, pontificale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas directement sous la juridiction du pape. Et donc, surtout de nos jours, c'est une université qui est, disons, inspirée par l'humanisme chrétien, mais qui n'est pas une université catholique stricto sensu. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passait encore il y a 50 ans, on ne vous demande pas si vous êtes catholique avant d'être nommé. Donc, il y a, parmi mes collègues, sûrement un certain nombre d'agnostiques. Donc, il y a une ouverture. Évidemment, si on est totalement hostile à tout message chrétien, c'est peut-être pas une très bonne idée de postuler à l'université catholique. Il faut être logique, mais il n'y a pas de... L'étiquette n'implique pas de restriction ou d'exclusive, en tous les cas.
En tout cas, c'est d'abord une université où Erasme a fait deux séjours. Il faut tout de même le rappeler au XVIe siècle, parce que c'est assez une référence.
Et qui était d'ailleurs un peu contestataire par rapport à l'Église.
Ah bah, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la deuxième université de Belgique, derrière l'université de Leuven, et elle figure, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien de le dire, mais enfin parmi les 130 meilleures universités du monde, c'est une même intéressant et c'est surtout une université qui se veut avec un rayonnement européen, n'est-ce pas ? Elle accueille des chercheurs de différents pays.
Oui, européens et un peu international parce qu'évidemment, il y a pas mal d'étudiants africains étant donné le passé colonial de la Belgique. Et d'autre part, beaucoup d'étudiants d'Amérique du Sud également, puisque là, il y a évidemment, il y avait une communauté avec les universités catholiques d'Amérique du Sud, donc... Et alors, des étudiants européens par les programmes Erasmus, bien entendu.
En tout cas, elle a aussi une qualité, cette université catholique de Louvain, c'est qu'elle a fait docteur honoris causa Eric Orsenna de l'Académie française.
C'est voilà. Une grande qualité. D'ailleurs, ce fut un moment plein d'humour.
Vous y étiez ?
Oui, j'y étais.
Alors, je l'ai dit, monsieur Jean-René Klein, vous enseignez les langues romanes. Donc, on se doute qu'une langue romane, c'est une langue qui est essentiellement issue du latin courant. Mais combien existe-t-il de langues romanes et pouvez-vous nous aider à y voir un peu plus clair dans cette classification ?
Alors là, vous commencez précisément par une question difficile, parce que...
Désolé.
Il est difficile de trouver beaucoup d'ouvrages qui sont d'accord sur le nombre de langues romanes. Parce que là, on touche à un point extrêmement intéressant et délicat. Et comme souvent dans la terminologie, le mot « langue » est extrêmement polysémique.
Oui, oui. Et puis les linguistes, voilà. Pour eux, dès qu'on parle, c'est une langue.
Voilà.
J'ai compris
voilà.
Ça maintenant.
Alors évidemment, si on prend tous les dialectes, tous les parlés hérités du latin, il est évident qu'il y en a beaucoup. Mais si on prend langue au sens, je dirais, socioculturel, de langue enseignée, de langue administrative, de langue standardisée, là, on retrouve essentiellement, mais pas exclusivement, la plupart des grandes langues nationales romane.
Alors, on tourne dans combien ?
Environ 11.
11.
On va dire 11, oui. Bon. Et donc, ça va du roumain tout à l'est. On l'oublie trop, d'ailleurs, le roumain, qui n'est évidemment pas, comme certains le croient, une langue slave.
Non,
malheureusement,
non.
Puisque c'est un îlot dans le monde slave. Et tout à fait à l'ouest, au bordure de l'Atlantique, le portugais. Et ce sont d'ailleurs, c'est très intéressant, comme souvent les aires latérales, ce sont précisément deux des langues les plus archaïques par rapport aux autres langues romanes et par rapport au latin.
Alors comment les classe-t-on ces langues romanes justement ?
On peut les classer de différentes manières. On a essayé de faire des groupements, par exemple langue italo-romane, on a fait le roumain, les langues italo-romanes, le groupe rhéto-roman, parce que là il y a les parlers suisses évidemment. Le romanche, le langadinois. Alors là, on peut de nouveau discuter, on peut dire oui, mais là, ce ne sont pas des grandes langues nationales, mais ce sont des langues qui ont essayé de sauvegarder quelque chose, de tendre à une certaine standardisation, ce qui n'est pas simple. Par exemple, je sais que le romanche est enseigné dans le territoire romanche, mais il a le statut de langue nationale en Suisse, mais il n'a pas le statut de langue officielle. Il y a trois langues officielles, l'allemand, le français et l'italien. Plus une quatrième langue qui a le statut de langue nationale. Et alors, on arrive alors au grand domaine, évidemment, gallo-roman. Alors, évidemment, avec le français, avec l'occitan, qu'il ne faut pas oublier, qui était une grande langue romane, mais qui, évidemment, a été, il faut bien le dire, supplantée par le français du Nord, le français d'Oïl. Et alors, vous avez une bande, alors, qui englobe une partie de la Suisse, ce qu'on appelle la Suisse romande, et que les linguistes appellent le franco-provençal, mais qui déborde, qui englobe une partie de la Savoie et du Lyonnais. Mais en général, quand on parle aux gens du cru du franco-provençal, ils ignorent ce que c'est, parce que c'est une classification qui a été faite par les linguistes.
Mais que ça n'est pas du français.
Ah non,
justement.
Non, ce n'est pas
c'est
du français.
C'est une langue
et d'ailleurs,
à part.
C'est très difficile, c'est un conglomérat de dialectes qui a été identifié parce qu'il y avait un certain nombre de points communs et qu'on a appelé le franco-provençal. Mais en fait, là-dedans, il y a les parlers de l'Ardèche, il y a les parlers du Valais, etc. Et tout ça se trouve dans cet ensemble franco-provençal. Et alors, quand on descend, évidemment, alors on arrive au domaine, au grand domaine ibérique. On retrouve évidemment le catalan, qui, lui, est une langue qui avait perdu beaucoup face au castillan. Et comme on le sait, évidemment, la Catalogne revendique très fort son autonomie culturelle, linguistique, etc. Le castillan et, bien entendu, le portugais. Mais on voit déjà que parmi les linguistes romanistes, il y en a qui disent, oui, mais il faut revendiquer le statut de langue pour le galicien. L'université de Saint-Jacques de Compostelle, où j'ai déjà séjourné, ben, publie tout en galicien pour montrer que le galicien est véritablement une langue. Ce qui est vrai, mais il est évident que le galicien, dans la concurrence des langues, ne peut pas être mis sur le même pied que le castillan, etc. Mais là, c'est un aspect, je dirais, plutôt sociopolitique, plus que linguistique.
Alors, vous insistez justement sur les divergences des linguistes, mais tout de même, ils se retrouvent sur des traits communs en langue romane.
Bien
alors,
sûr.
Quels sont ces traits communs qui permettent de dire « cette langue est romane et celle-là ne l'est point »
C'est-à-dire, c'est à la fois le lexique, la morphologie et la syntaxe. C'est-à-dire, le lexique, c'est très clair, mais c'est un héritage du latin. Mais attention, quand on a fait du latin à l'école, quand on a appris le latin, on a appris le latin littéraire. Or, les langues romanes ne sont pas issues de ce latin-là, du latin écrit, elles sont issues du latin parlé. Du latin parlé qui a toujours été parlé par les Romains, parce qu'on a tendance à identifier le latin parlé avec le latin tardif. Je disais toujours à mes étudiants, avant César, les Romains parlaient. Donc, c'est le latin qui a toujours été parlé et qui a évolué. C'est vers seulement après les invasions, les grandes invasions germaniques, qui vont jouer un rôle très important, notamment par rapport au français, puisque le français va avoir ce qu'on appelle un superstrat, une influence germanique importante, notamment avec le francique. On oublie trop souvent, ce qui est curieux, que le nom de la
francique,
France...
qui est la langue qu'on parle en Lorraine.
Oui, oui non, maintenant,
cette qu'on appelle, région-là.
Oui, mais le francique, c'était la langue des Francs, qui était l'Empire franc, Clovis, les Mérovingiens étaient des Francs, évidemment, et puis les Carolingiens. Et ils ont donné leur nom au pays, Francia. La France, c'est donc un nom, c'est le pays des Francs. Hein, tandis qu'avant, c'était la Gaule, c'était la Gallia.
Et donc, les linguistes appellent ça un substrat, c'est-à-dire...
Un superstrat.
Un superstrat.
Donc, ce sont les parlers qui, en quelque sorte, se sont superposés aux parlers gallo-romans. En l'occurrence, ici, superstrat francique, il y a des superstrats partout. Il y a le superstrat slave en Roumanie, il y a le superstrat arabe, bien entendu, en Ibérie et surtout en Espagne. Mais donc, les parlers des gens, les gens continuent à parler leur parler roman, hérité du latin, et ils ont adopté, ils ont en quelque sorte toute une série d'éléments franciques, et les Francs eux-mêmes se sont romanisés. Parce que sinon, nous parlerions une langue germanique en France et en Belgique. Et alors justement, alors là, pour en arriver à la Belgique, que
alors,
je connais
j'allais
un peu...
Alors, vous poser la question de la
alors,
Belgique.
Quand on monte un peu plus haut que la frontière politique, puisque le sud de la Belgique, c'est ce qu'on appelle la Belgique romane ou... La Wallonie, ce qui parfois est un peu ambigu, je peux l'expliquer. ben évidemment, est tout à fait romane, jusqu'à cette frontière linguistique qui montre que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand on va au nord de Bruxelles, eh bien, on se trouve dans une région qui a été germanisée, où on parle le flamand, ou comme on dit maintenant, le néerlandais. Et donc là, l'implantation, ça s'explique probablement par le fait que l'implantation franque a été plus massive, tandis que au fur et à mesure qu'on descend dans la Gaule, ben, les Francs, finalement, étaient parsemés. Et c'était surtout les gens qui dominaient politiquement. Mais la population était très largement, majoritairement gallo-romane. Et donc, ils ont continué à parler leur langue. Et les Francs qui dominaient politiquement ont fini par adopter progressivement la langue de la région.
Comme quoi, on ne peut pas être linguiste sans être historien. Je note cela aussi.
Ah, mais j'approuve totalement.
Et donc, à vos étudiants, je suppose que vous enseignez aussi l'histoire de la langue. Ça fait partie...
Mais l'histoire de la langue, justement, nous en parlions avec des collègues là, il y a 2 ou 3 jours. C'est précisément, c'est peut-être quelque chose qui était fort négligé. Je ne parle pas de la linguistique historique. La linguistique historique, c'est quelque chose de très spécialisé. C'est justement, on y faisait allusion il y a quelques instants, on part des vocables latins. Et on peut expliquer par des évolutions phonétiques régulières un peu complexes, où il y a d'ailleurs des exceptions, le passage vers le français actuel. L'histoire de la langue, c'est surtout l'histoire externe, c'est tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé sur le territoire où l'on parle de nos jours le français et qui va au-delà, évidemment, va au-delà de la France, puisqu'il y a la Belgique romane, bien entendu, et il y a la Suisse romande. Et donc là, c'est une histoire qui est mal connue, qui est méconnue, et c'est peut-être dommage que dans l'enseignement, je crois, aussi bien en France qu'en Belgique, quelque chose qu'on enseigne très peu. Et on a vu, et ça c'est peut-être une autre question, les dégâts que ça a fait dans les discussions concernant les fameuses rectifications orthographiques de 1990, où on entendait dire des choses qui étaient totalement aberrantes par rapport à l'histoire réelle de la langue française. Et même par des gens cultivés, ce qui était étonnant, des journalistes, etc., qui semblaient ignorer très fort la réalité de l'histoire de la langue.
Peut-être l'ignorait-il parce que ce n'est pas enseigné, comme vous le dites.
Oui.
Alors, je voudrais revenir un tout petit instant sur la Belgique. Si j'ai bien compris, en Belgique, il y a 3 langues officielles, c'est-à-dire la langue romane, le français, 3 langues, l'allemand et le néerlandais.
Oui.
Bon. Mais alors, le wallon, comment se situe-t-il dans cette... langue officielle, si j'ai bien compris.
Ah non, le wallon. Donc, alors, la terminologie est compliquée. Et en fait, la Belgique moderne l'a encore beaucoup plus compliqué, puisque maintenant nous parlons de la communauté française de Belgique, qui englobe la Wallonie et Bruxelles. Bruxelles qui est à 90% francophone, mais qui est un îlot au milieu de territoire flamand.
Alors, donc ceux qui parlent français et ceux qui parlent wallon font partie de cette communauté française.
Voilà, communauté française. Ce qui peut me permettre peut-être une petite anecdote, quand cette communauté française a été créée, il y a eu un sommet de la francophonie, je crois que c'était à Dakar. Là, c'était le président Mitterrand, qui rencontrant le président de la communauté française de Belgique, qui s'est présenté, lui a dit « Communauté française, combien de membres ?» Il croyait, parce que la communauté française, normalement, ce sont les Français qui vivent en Belgique. Vous voyez, on va d'ambiguïté en ambiguïté. Mais donc, le problème de la Wallonie, c'est que la Wallonie, donc c'est la Belgique romane, si l'on veut, plus Bruxelles, mais donc la Wallonie est divisée en elle-même en dialectes différents. Alors, on pourrait croire, et ce serait logique, linguistiquement, que Wallonie est le dérivé simplement et correspond à la même extension que Wallon. Non. Le Wallon est parlé essentiellement dans l'est de la Wallonie, puisque la grande ville wallonne, il y a 2 grandes villes wallonnes, enfin là je ne vais pas faire de...
Ah si, si, un petit peu,
prudent.
Ça nous intéresse.
Il y a Liège, qui est peut-être la ville la mieux connue en France, il y a Namur et il y a Charleroi.
D'accord.
Ce sont les 3 grandes villes wallonnes. Mais une fois qu'on va plus à l'ouest, par exemple une ville comme Mons ou bien Tournai, qui est tout près de Lille, à l'ouest, mais c'est le Picard. Ce n'est plus le Wallon, c'est le Picard.
Et le Picard-Wallon, ce n'est pas une langue, c'est un Picard,
alors,
c'est différent.
Alors, le Picard, et alors, ce sont des dialectes qui eux-mêmes sont subdivisés, parce que le Wallon, qui parle le Wallon, il n'y a pas de Wallon standard, ce n'est pas une langue standardisée. Donc, ce qui veut dire qu'un Liégeois, un Namurois et un Carolorévien parlent des Wallons différents. Et quelqu'un de Mons et quelqu'un de Tournai ne parlent pas exactement le même Picard. Et si on va plus loin, si on va vers Lille ou le pays ch'ti, précisément, ben, le Picard, bien sûr, il y a énormément de points communs, mais il y aura des différences. Parce que c'est justement pour cela que ce ne sont pas des langues au sens habituel du terme, puisque ces langues, comme elles n'ont jamais été enseignées, elles n'ont jamais servi de langue administrative. n'ont pas été standardisées, ben, il est évident qu'il n'y a pas d'unification.
Elles évoluent au fur et à mesure des gens qui les parlent.
Et alors on oublie, peut-être, il ne faut pas les oublier, parce que là, des compatriotes qui ne seraient pas heureux, dans le sud, tout à fait dans le sud de la Belgique qu'on appelle la Gaume, c'est un territoire lorrain. Et là, alors, on parle lorrain. Il y a le lorrain, qu'on appelle le gaumais en Belgique, gaumais. Et du côté de Bouillon, qui est aussi dans le sud de la Belgique, là, il y a une petite enclave de champenois. Mais ça, c'est très peu de choses. Mais donc, les deux grands dialectes, disons, de la Wallonie, c'est le wallon et le picard.
Le picard. Bon, on commence grâce à vous à y voir un petit peu plus clair. Si vous voulez bien, on se retrouve après une courte pause dans un instant.
Volontiers.
Un jour dans l'histoire revient sur les raisons de la condamnation par l'église de Galilée copernicien en compagnie d'Aimé Richard. Pour tout comprendre sur le contexte politique, scientifique et historique, téléchargez dès maintenant cette émission sur Canal Académie.
Nous revenons dans notre studio en compagnie de Jean-René Klein, donc professeur à l'Université catholique de Louvain. Et j'ai cru comprendre que vous effectuiez un travail tout à fait particulier au sein d'un centre d'études qui s'appelle le Selex Rome. Qu'est-ce que le Selex Rome et qui fait-on ?
Mais c'est le centre d'études des lexiques romans. Donc ma spécialité, bon, je ne m'intéresse pas qu'au lexique, mais ma spécialité c'est quand même le lexique. Et donc tout ce qui touche au lexique a toujours été la priorité. Mais je ne suis pas le seul dans ce centre. Justement, j'ai un collègue également émérite, qui est Jean-Marie Pierret, et qui lui est un spécialiste des dialectes, précisément des dialectes wallons, et qui a beaucoup travaillé sur le lexique. Et nous sommes les élèves de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le lexique, mais qui a maintenant est surtout connu par la grammaire laquelle il continue à travailler, c'est André Gauze, donc, qui publie maintenant, a publié les dernières éditions de la grammaire de bon usage de Grevisse, qui s'appelle maintenant le Grevisse-Gauze.
Alors, j'ai cru comprendre que dans ce centre aussi d'études des lexiques romans, et même dans votre approche des langues romanes, vous aviez trois passions. Le figement, la variation et les graphies nouvelles. Alors, on a vraiment envie de vous entendre sur le figement. Qu'est-ce que le figement ?
Mais voilà, ce sont trois points importants donc, auxquels je me consacre beaucoup. Alors, le figement, justement, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. On l'appelait peut-être plus couramment ou plus traditionnellement la phraséologie. C'est-à-dire, on pourrait dire dans la langue, c'est tout ce qui est préfabriqué, tout ce qui est en quelque sorte mémorisé. Quand on dit arriver comme les carabiniers, ben arriver comme les carabiniers pour arriver en retard en France, ben c'est quelque chose, on ne dit pas arriver comme les pompiers, on ne dit pas arriver comme les ambulanciers, on dit arriver comme les carabiniers.
C'est donc une expression qui s'est figée. C'est une expression figée.
Et donc, elle est mémorisée en bloc. Et c'est évidemment quelque chose qui est très difficile, mais c'est vrai dans toutes les langues. Quand on apprend une langue, c'est évidemment ce qu'on apprend le plus difficilement, puisque le danger, c'est de traduire littéralement ce qui fait toujours rire, évidemment, hein, bien entendu.
Donc là, vous avez d'ailleurs, on va en profiter pour citer ce livre que vous avez publié avec Béatrice Lamirois. Vous êtes un certain nombre de professeurs à avoir publié dans cet ouvrage « Les expressions verbales figées de la francophonie », donc en Belgique, en France, au Québec et en Suisse. Alors, ça traduit justement les proverbes, par exemple, qui sont toujours pas seulement ?
Justement pas. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, ici, nous avons choisi. Le figement est un domaine extrêmement vaste, la phraséologie. Ça englobe beaucoup de choses. Ça va depuis le nom composé, le nom plus adjectif. Par exemple, quand on dit d'une dame, surtout que c'est un cordon bleu, mais il est évident que c'est totalement figé. Il n'y a pas de cordon et cette dame n'est pas bleue, évidemment. Hein, donc, le cordon n'est pas bleu. Donc, on voit que ça va depuis le nom composé, et qui a même une structure tout à fait régulière, nom adjectif, jusqu'au proverbe. Mais avec... Alors, ce qui est intéressant dans le phénomène du figement, c'est que ce n'est pas un phénomène qui est totalement homogène. On voit très bien que le figement de cordon bleu et le figement de qui va à la chasse perd sa place ou des choses de ce genre-là n'est pas tout à fait du même ordre.
Alors, et t'occupes entre pas les du deux... chapeau de la gamine, je vois qu'il y a là, t'occupes pas du chapeau de la gamine.
Oui.
Alors ça, c'est quoi ? C'est une expression verbale ? C'est une expression ?
Alors ça, c'est encore une distinction nouvelle. C'est plutôt ce qu'on appelle la phrase idiomatique ou la phrase figée. Alors, en deux mots, hein, pour dire, je vais parler des noms composés. Les expressions verbales sur lesquelles nous nous sommes vraiment focalisés, ce sont les expressions, ben, comme le dit bien, où il y a un verbe et des compléments et des arguments. Hein. Par exemple, ben oui, arriver comme les carabiniers, être plus royaliste que le roi, et des choses de ce genre-là. Donc là, des expressions verbales. À côté de ça, ou au-delà, il y a des expressions je dirais, des phrases qui sont figées. Et vous venez d'en citer une.
T'occupe pas du chapeau de la gamine.
T'occupe pas du chapeau de la gamine. Alors là, bien entendu, on voit que c'est une phrase qui est une prédication indépendante. C'est une phrase. Si je dis « arriver comme les carabiniers », je dois mettre un sujet, je dois...
Oui,
je dois
elle n'est pas encore constituée en
tandis
phrase.
Tandis que là, c'est une phrase. Hein? Ou bien, je crois qu'en France, on dit d'une manière familière, « sois poli si t'es pas joli » ou « si t'es pas joli, sois poli hein? » ou des choses comme ça. Mais voilà, ce sont des formules. Il y en a plus. Ou bien, on a énormément de formules qu'on appelle aussi, parfois, du point de vue discursif, des routines conversationnelles.
Oh, c'est merveilleux.
Des routines conversationnelles. Par exemple, quelqu'un qui me dit quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord ou que je connais depuis longtemps, mais à qui le dites-vous ?
À qui le dites-vous, oui.
Alors évidemment, quand on réfléchit au sens analytique de cette phrase, elle est parfaitement stupide parce que la personne pourrait me dire, mais c'est à vous que je le dis, évidemment.
Ben, évidemment,
je
oui.
Mais à qui le dites-vous ? On voit très bien que ça a un sens.
C'est un acquiescement.
Voilà.
C'est donc, c'est un sens figé.
À qui le dites-vous ? Alors, je dirais que la langue, surtout la langue orale, est truffée de ces formes-là. Qu'il est extrêmement intéressant de connaître, parce que le problème du figement, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a fort développé au cours des dernières années, c'est tout le problème du traitement automatique du langage. Il est évident que, par exemple, dans le cas tout simplement de la traduction automatique, un ordinateur, qui est stupide, c'est bien connu, il va traduire tout ça littéralement. Alors ça ne voudra plus rien dire.
Oui, oui, avec les problèmes de traduction,
ça... Il faut que tout cela soit, en quelque sorte, répertorié, analysé, pour que des machines puissent dominer toutes ces particularités. Donc on voit que c'est énorme. Et c'est pour ça que, notamment, il y a beaucoup de centres qui se sont développés, notamment à Paris, qui traitent des problèmes de l'informatisation, du langage, évidemment.
Donc il y a beaucoup de travail encore pour les linguistes.
Si vous permettez, alors justement, les proverbes, c'est encore une autre catégorie, parce que, à côté de ces phrases suivies, les proverbes ont une qualité supplémentaire, si j'ose dire, c'est que leur généricité et le fait qu'ils soient indépendants, je dirais, d'une insertion situationnelle. Je peux très bien dire, comme chacun sait, c'est bien connu, qui va à la chasse perd sa place. Et on me dira, ben oui, c'est très bien. Mais si je dis, comme chacun sait, il faut tenir le haut du pavé, on me dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut tenir le haut du pavé ? Non, il tient le haut du pavé, ça va se dire de quelqu'un particulier en fonction d'une situation. Tandis que
poignée vivante, Pierre qui roule n'amasse pas mousse,
qui roule qui n'amasse pas mousse, etc. Mais tout cela, comme chacun sait, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Comme chacun sait
c'est
à qui le dites-vous,
autre façon.
C'est absurde.
Oui, oui, absolument.
Voilà, donc c'est la généricité et l'absence d'insertion situationnelle.
On l'aura compris, ce qu'est le figement, donc l'une des passions de Jean-René Klein. On voit qu'il en parle avec passion. L'autre, c'est la variation. Alors la variation, ça doit être le contraire, je suppose.
Alors nous avons peut-être un peu cherché la difficulté. Nous avons voulu combiner les deux dans ce petit livre qui vient de sortir, puisqu'il s'agit des
aux éditions Ofris.
Et donc, ce petit livre, justement, essaye, d'un point de vue synchronique, c'était donc contemporain, d'un point de vue contemporain, de dominer la variation à travers les expressions verbales. Et là, il y a une variation considérable. Une variation considérable, à côté, évidemment, d'expressions qui sont communes et que nous avons appelées, cette variation, nous l'avons appelée BFQS, Belgique, France, Québec, Suisse. Ceci non pas pour exclure d'autres zones de la francophonie, mais tout simplement, si on est attentif, ce sont précisément les zones de la francophonie où vivent les natifs francophones. Il est évident que le français d'Afrique est un univers extrêmement important et intéressant, mais qui demande une approche spécialisée, puisque là, le français fonctionne comme langue seconde, ce qui est évidemment différent. Et alors, nous avons essayé d'expliquer comment fonctionnait cette variation à travers les expressions en travaillant donc entre collègues belges, français, québécois et suisses. Alors, ça pourrait paraître relativement simple au départ, mais il faut d'abord ce qu'on appelle constituer des corpus. Il faut les repérer, ces expressions. Alors, nous avons pu partir d'un immense corpus qui avait été constitué par un collègue de Paris, malheureusement décédé maintenant, Maurice Gross, qui dirigeait à Paris 7 le laboratoire d'automatique documentaire et linguistique, et qui avait constitué encore plus de 44 000 expressions qu'il appelait figées, mais en prenant figées dans un sens très extensif. Alors nous avons dû traiter d'abord ces expressions connues en France, et puis essayer de voir ce qui n'était pas connu par les autres membres de l'équipe, c'est-à-dire ceux qui appartenaient aux variétés non françaises, belges, québécoises et suisses. Et puis chacun des représentants de ces variétés a dû arriver avec son propre corpus d'expressions spécifiquement belges, spécifiquement québécoises, spécifiquement suisses. Alors, à première vue, ça paraît simple. On me dit, oh ben, il y a déjà des recueils, etc. Oui, ce serait simple si tout ça était bien au point. Or, il faut savoir que bien souvent, jusqu'il y a quelques années, le domaine des expressions était plutôt plutôt dominé par des ouvrages qui avaient des ambitions, je dirais, d'amusement, parce que les expressions métaphoriques sont amusantes. Ce n'est pas un défaut, d'ailleurs, loin de là. Il y en a beaucoup qui sont amusantes, il y en a même qui sont très familières, même un peu triviales, il faut bien le dire, mais qui sont courantes. Eh bien, tout cela est assez amusant, et souvent on essaye de l'expliquer, etc., vaille que vaille. Ici, nous avons essayé de faire une description la plus rigoureuse possible, en tenant compte, évidemment, des usages. Mais qu'est-ce que c'est que l'usage? Alors là, c'est une autre paire de manches, c'est une autre question. Comment savoir qu'une expression française de France est vraiment utilisée en Belgique, au Québec ou en Suisse? Ce n'est pas facile. Alors, il y a des cas qui sont assez nets, mais il y a énormément de cas où il y a du flou. Et c'est bien connu, ce qui rend les choses difficiles, c'est que les frontières politiques ne sont pas des frontières linguistiques étanches. Et si on prend des belgicismes, ce qu'on appelle parfois des belgicismes, quand je vais à Nancy, là où s'est élaboré le trésor de la langue française, eh bien on me dit « Ah oui, mais votre expression belge, là, nous l'utilisons à Nancy ». Voilà la difficulté. Vous voyez, donc, il n'y a pas de cloisonnement tout à fait...
Difficile d'être extrêmement scientifique et de cloisonner
alors,
les choses,
c'est
en
là
effet.
Ça, c'est une première difficulté. Alors, on pourrait dire, oui, mais vous avez quand même les grands dictionnaires. C'est vrai qu'il y a des ouvrages remarquables. On a quand même, pour le français, on a le trésor de la langue française, évidemment, et le grand Robert et les petits Robert, qui sont des ouvrages lexicographiquement fort remarquables. Mais le problème est de savoir ce qu'ils reflètent exactement. Alors, vous allez me dire, ben, le français, bien sûr. Mais quel français ? Alors, le français, c'est tout de même d'abord, et c'est logique, c'est le français de France. Mais le français de France est de nouveau quelque chose qui est complexe. Est-ce qu'on trouve beaucoup de régionalisme du français de France ? Un peu, dans les versions les plus récentes, par exemple des petits Robert. Et puis, est-ce qu'on trouve des emplois propres à la Belgique, à la Suisse, au Québec ? Un peu. Et comment ces emplois sont-ils introduits dans le dictionnaire français ? Mais souvent par référence à des ouvrages qui ont été publiés en Belgique, ce qui est logique, en Suisse, au Québec. Mais ces ouvrages eux-mêmes ne sont pas nécessairement tous de qualité scientifique. Et donc, il y a fatalement des erreurs et des choses. Si vous voulez, c'est très difficile. Si moi, j'utilise une formule, et ça peut arriver, et que je vais voir dans un dictionnaire français, je me dis, tiens, elle n'est pas dans un dictionnaire français. Dans aucun des dictionnaires français. Et puis tout à coup, je me dis, mais alors c'est peut-être un belgicisme. Mais ce n'est pas nécessairement un belgicisme, parce qu'il est possible qu'il soit utilisé, cette formule soit utilisée par les Québécois. Donc, ce serait une combinaison Belgique-Québec. Et c'est ce que nous essayons de décrire. Nous avons des expressions du français commun, ce que nous appelons BFQS, les quatre variétés, qui sont heureusement les plus nombreuses. C'est pour ça qu'on se comprend quand même. Mais alors, il y a toutes les expressions spécifiques. Il y a des BFS. Il y a des FS. Pourquoi ? Parce que, mettons, et alors surtout si on prend le français, mettons, parlé près de la Suisse romande, dans certaines grandes villes françaises, ben, il est évident qu'on va trouver des expressions qu'on trouve aussi en Suisse romande, mais qu'un Belge ou un Parisien va dire « Mais non, c'est pas tellement courant chez nous ». Donc, vous voyez que la description est extrêmement subtile et difficile. Oui. Et si à ça vous ajoutez les différences socioculturelles, l'âge des gens que vous interrogez, j'ai eu l'occasion de redonner un cours justement à l'université, mon collègue qui m'avait succédé m'a proposé de venir redonner un cours de son cours de lexicologie, et j'avais devant moi une cinquantaine d'étudiants à peu près de master, 22 ans, et j'ai testé, j'ai employé tenir la dragée haute à quelqu'un, j'ai employé tout à l'heure tenir le haut du pavé, aucun étudiant ne connaissaient ces expressions, qui me semblaient à moi...
Elles sont datées.
Alors, on ne peut pas dire qu'elles sont archaïques. Si on regarde dans les dictionnaires, ce sont des expressions qui sont mentionnées...
Mais on ne les utilise plus chez les jeunes, par exemple. Voilà.
Par contre, il est arrivé que mes assistants me disent « Comment ? Vous ne connaissez pas cette expression ?» Tout étonné, me dire « Non, malheureusement, c'est une expression qui est courante. »
Ça marche dans les deux sens.
Donc, vous voyez que la description, quand on prend tous ces paramètres, devient quelque chose de très subtil difficile. Et difficile. Alors, et donc, il y a sûrement, même dans l'ouvrage que nous venons de publier, encore des approximations que peut-être certains lecteurs relèveront. C'est inévitable.
En l'ouvrant à tout hasard, alors j'en ai retrouvé une là que je vais vous dire. Paul fait la gueule. Ça veut dire, en Belgique, en France et en Suisse, il est de mauvaise humeur. Ça, on a compris. Mais ça n'aura pas le même sens que Paul fait une gueule d'enterrement. Ce qui qui veut dire qu'il a une tête sinistre. Alors ça, c'est en Belgique, en France, un peu au Québec, parce que c'est un petit cul. Alors je suppose que c'est un petit peu au Québec.
C'est connu, mais c'est pas courant. Voilà.
Et en Suisse, alors Paul fait une gueule de 6 pieds de long, c'est uniquement en France et en Suisse. Et Paul fait une face d'enterrement, c'est uniquement au Québec.
Oui, parce que par exemple, les Québécois, très souvent, emploient le mot face, ce que nous utilisons beaucoup moins. Donc vous voyez, c'est
très subtil.
Extrêmement subtil. Et alors, il y a le problème de l'emploi courant, que nous mettons avec des majuscules, et vous l'avez bien relevé, l'emploi qui est connu, un Québécois dira « Ah oui, on comprend hein, ». C'est la même chose, j'ai déjà utilisé cet exemple, « être plus catholique que le pape ». Il y a des Français qui diront « Ben oui, on connaît ça, mais on dit plutôt être plus royaliste que le roi ». Seulement, être plus catholique que le pape en Belgique, au Québec et en Suisse a le sens d'être finalement plus radical que celui qui est à l'origine d'une idéologie. Tandis qu'en France, une collègue française qui travaille avec nous a dit « Mais oui, mais on connaît cette expression ». Mais elle a interrogé ses amis, elle a dit « Oui, mais nous, nous l'utilisons, mais quand c'est le pape ?» C'est uniquement à propos du pape. Tandis que en Belgique, nous pouvons dire « tel ministre est plus catholique que le pape parce qu'il est plus radical que le premier ministre » ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec le pape. C'est comme être plus royaliste que le roi.
Absolument. Donc, voilà. Alors, dernière de vos passions, Jean-René Klein, les graphies nouvelles, qu'on appelle aussi graphies inventives. Alors, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit, là, c'est une recherche, en fait, qui n'est pas propre au centre, le Selectrum, mais qui est menée en collaboration et largement dirigée, d'ailleurs, par un collègue de l'UCL, Cédric Ferron, qui dirige, lui, le Centre de traitement automatique du langage, le CENTAL. Alors, il y a 4 ou 5 ans, nous, en discutant, nous nous sommes dit que finalement, il serait intéressant d'analyser ce fameux langage texto, on dit parfois ou SMS, qui avait fait l'objet déjà de quelques articles par-ci par-là, mais uniquement à partir de mini-corpus, c'est-à-dire des exemples qui avaient été glanés, des gens qui avaient recopié des SMS qu'ils recevaient, qu'ils avaient recopié à la main, ou des professeurs qui avaient demandé à des élèves de recopier manuellement des SMS.
Oui, ça restait très...
Avec toutes les erreurs, d'ailleurs, de transcription que ça pouvait impliquer. Et il se fait que dans ce centre de traitement automatique du langage, avec mon collègue Ferron, a été mis au point un système qui a permis de lancer une grande enquête qui a duré plusieurs mois, qui a eu un succès énorme, et où les gens pouvaient, à partir de leur portable, donner leur accord, transmettre à un numéro qui leur était fourni, qui avait été diffusé, les SMS ou bien qu'ils envoyaient ou bien qu'ils recevaient.
Ceci vous avez élargi le public.
Ceci passait par l'équivalent de France Télécom, qui est Belgacom, qui évidemment, tout cela était anonymisé, évidemment, bien sûr. Et tout cela était informatisé automatiquement. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un corpus qui nous a complètement dépassé d'à peu près 100 000 messages, dont 30 000 ont été complètement transcrits en français normé. Et ce logiciel existe, et on a publié un ouvrage, d'ailleurs, publié aux presses universitaires de Louvain. Et donc, il s'agit d'un logiciel qui permet de travailler sur le langage SMS, par exemple, en indiquant, si on indique des formes SMS, code SMS, on va trouver l'équivalent français, ou bien, ou plutôt, si on cherche, mettons, si on met le chiffre 4, on met 4 en français, on va trouver tous les emplois où le chiffre 4 est utilisé avec une valeur, je dirais, dans le domaine SMS, 4, mettons, dans Catherine, 4 in. Pour Catherine,
par exemple,
ou bien 4 pour fort, le fort anglais. Donc on voit qu'il y a une grande polysémie même dans ce langage SMS. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, en plus, on peut utiliser ce logiciel pour un certain nombre de gens qui ont envoyé leur message, on remplit une fiche sociolinguistique. Ce qui fait qu'on peut savoir, par exemple, quel âge a l'émetteur du SMS. On peut, par exemple, essayer de trouver tous les SMS émis par des adolescents entre 13 et 18 ans.
Oui, on peut faire d'autres sortes d'études.
Ou bien par des gens plus âgés. On peut faire toute une série. On a des paramètres que l'on peut donc utiliser et qui permettent alors de faire des analyses. Et alors, à côté de ça, nous avons publié un petit ouvrage, toujours aux presses universitaires de Louvain, où alors on analyse précisément ce langage SMS d'une manière aussi objective en montrant que c'est un langage essentiellement ludique et fantaisiste. Et donc, qui n'est pas un langage normé, loin de là. En France, on a essayé de publier parfois l'un ou l'autre petit dictionnaire de SMS, mais peu convaincant parce qu'on s'apercevait que ce qui était répertorié là n'était pas spécifique au SMS. On mettait par exemple du verlan, Mais le verlan n'a rien à voir avec le SMS. On utilise du verlan dans les SMS, mais le mot meuf n'est pas né à cause du SMS. Et d'autre part, on indique toute une série de choses qu'on n'a pas du tout trouvées dans notre corpus. Et par contre, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans notre corpus et qui n'étaient pas dans ces dictionnaires de SMS. Donc là, c'était des choses relativement fantaisistes qui avaient été publiées hâtivement. Et donc maintenant, récemment, mon collègue et moi, nous avons été interrogés, là, nous avons été sollicités, par exemple, pour faire un article pour la revue Le Français Aujourd'hui, où là, on nous a demandé de réfléchir à la spécificité de ce genre de graphie inventive et éventuellement de son incidence par rapport à la connaissance de l'orthographe française, ce qui n'est quand même pas quelque chose à négliger, surtout quand on est professeur de français, quand on est dans l'enseignement. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer. Et ce qui est peut-être utile, peut-être une des originalités de notre article, c'est de montrer, on n'est pas les seuls d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'incidence nécessairement négative du langage SMS sur l'apprentissage de l'orthographe. Bien plus, mais là, nous n'avons pas fait cette étude. Des études tout à fait récentes de l'université de Coventry, en Angleterre, ont montré que des enfants, mais là, nous ne savons pas dans quelles conditions les enquêtes ont été faites, que des enfants qui maniaient très fort, qui utilisaient fort le langage SMS, étaient meilleurs en orthographe anglaise que les autres.
Voilà, une découverte.
Nous n'avons pas de preuves concernant le français. Mais il y a sans doute des réflexions.
Des champs à explorer.
Des champs à explorer, exactement.
Donc je vois que vous avez encore, professeur Jean-René Klein, de belles années d'études devant vous. Et j'espère qu'elles seront très longues et qu'on aura donc encore d'autres occasions de parler avec vous de ces langues romanes et de tout ce que vous explorez autour de la langue. Merci d'être venu au studio de Canal Académie et à une prochaine fois peut-être.
Mais ce fut un plaisir pour moi. Merci aussi.